Et on va commencer notre 46e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder encore l'histoire des Puritains, la deuxième partie. Alors, dans notre première leçon, on avait examiné la pertinence de l'étude des écrits des Puritains pour l'Église contemporaine. Alors, pour mieux les apprécier, nous devons connaître leur histoire qui se compose de trois mouvements. Leurs antécédents, leur développement qui a eu lieu entre 1558 et 1603, et leur plein épanouissement qui a eu lieu entre 1603 et 1662. Alors, le pasteur réformé baptiste Harold Hulse affirme qu'il serait difficile de comprendre leur histoire sans associer leur existence et leur développement aux dates des règnes des rois d'Angleterre du 16e et du 17e siècle. Il croit même que l'on devrait apprendre par cœur ces dates, car, dit-il, « the time grid is essential ». Autrement dit, si on veut étudier les Puritains, si on n'a pas l'idée de qui régnait, à quelle époque, ça va être assez difficile de suivre, autrement dit, le raisonnement puis les problèmes, parce que chaque roi amenait soit des solutions et des problèmes, mais il faut savoir lequel est lequel, sinon on ne comprend pas grand-chose. Alors, ils furent une minorité en Angleterre, mais ils exercèrent une influence considérable, à la fois sur la vie religieuse et la vie politique de l'Angleterre. Dans les années 1500, la population de l'Angleterre était de 2 millions d'habitants, et dans les années 1600, elle était de 4 millions. À l'époque, à peine 25% de la population pratiquait une religion. Aujourd'hui, le visage de l'Angleterre a beaucoup changé. Sa population est de 51 millions d'habitants en 2011. Elle compte maintenant 13 000 paroisses chrétiennes, 10 000 membres du clergé, mais seulement 10% de la population est chrétienne pratiquante. Quand on regarde, on penserait qu'il normalement il devrait avoir eu comme une croissance. Elle était de 25% dans les années 1500. Maintenant, elle est rendue à 10%. Alors, l'Angleterre, semble-t-il, est rendue un pays considéré comme une terre de mission, parce que c'est rendu l'Angleterre, apparemment, au point de vue chrétien, là, c'est pas fort, comme on dit. Alors, durant la période, à l'époque des Puritains, il y avait trois catégories de personnes. Ceux qui entendaient rarement prêcher la parole de Dieu, ceux qui dormaient, et les pieux. Alors, les Puritains faisaient partie de la troisième catégorie, vraiment les pieux. Durant le règne qui débuta avec le milieu du règne d'Élisabeth jusqu'au Long Parliament, qui a eu lieu entre 1640 et 1660, l'Angleterre devint le peuple d'un livre. Et ce livre était la Bible. J'ai trouvé ce tableau-là, que j'ai trouvé sur Internet. C'est de valeur parce que quand je l'ai imprimé, je l'imprime en noir et blanc. Mais le dessin original est en couleur et ça illustre bien le principe que Harold Hulse disait. Là, parce que là, à l'intérieur de ça, on voit les rois, on voit par les couleurs. Là, on ne peut pas le voir à cause que c'est imprimé en noir et blanc. Mais tu as la dynastie des Tudors et la dynastie des Stuarts. Donc, c'est deux dynasties de rois. Alors, on sait que le début de ce qui a provoqué la croissance des Puritains, ça a commencé avec Henri VIII. Ensuite, il y a eu, en 1560, Édouard VI. Ensuite, il y a eu Marie la Sanglante. Et durant cette époque-là, il y a eu plusieurs lois qui ont été extrêmement importantes pour déterminer si les Puritains voyaient leurs demandes refusées. Alors, c'était l'acte de suprématie et d'uniformité. Il y avait les 39 articles. Alors, ça, c'est la fameuse confession de foi de l'Église anglicane. Après ça, il y avait Jacques Ier. Et si vous voyez la ligne grise en dessous, on voit la vie d'Olivier. Alors, on va voir ce soir le développement. Ce qu'on étudie ce soir, c'est vraiment comment ils se sont développés pour arriver à un point où ils ont vraiment pris le pouvoir avec Cromwell, avec Oliver Cromwell. Alors, tu as Jacques Ier, Alors, Oliver Cromwell, il y a Charles. On se souvient qu'Oliver Cromwell a fait couper la tête à Charles, qui était un roi. Et après ça, on a le Commonwealth, puis Charles. Alors, c'est vraiment important, si vous avez une chance de l'imprimer en couleur, si jamais quelqu'un s'intéresse aux puritains, de l'avoir en couleur, ça aide à comprendre un peu les principaux phénomènes qui se sont passés. Alors, en 1568, il y avait plusieurs congrégations d'anabaptistes en Angleterre qui s'appelèrent les puritains ou « the unspotted lambs of the Lord ». Ils s'appelaient les brebis non tachées, je ne sais pas trop quoi. « Unspotted lambs of the Lord ». Donc, il y avait une autre opinion d'eux-mêmes, mais peut-être que c'était justifié. C'est durant le règne élisabétain, donc la reine Élisabeth, entre 1558 et 1603, qu'ils eurent une croissance importante et qu'ils mirent l'emphase sur la pureté de l'Église et sur les fondements du christianisme. Alors, quels sont les points sur lesquels ils étaient attachés, qu'ils ont beaucoup défendu? Bien entendu, leur fidélité aux Saintes Écritures. Si ça n'avait pas été des puritains à l'époque, parce que l'Église d'Angleterre était en train de redevenir un petit peu une Église formaliste, une Église froide, une Église un petit peu... Et ils ont vraiment contribué à permettre que tout ça ne s'effondre pas, on pourrait dire. Donc, il y avait la fidélité aux Saintes Écritures. Une chose qu'ils ont introduit dans les cultes, c'est vraiment la prédication expositionnelle. C'est vraiment avec les puritains que c'est commencé. Je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait avant, là, mais c'est vraiment les puritains qui ont développé la technique de vouloir prendre un livre et de passer à travers en l'étudiant verset par verset jusqu'à la fin. Et de le faire de façon systématique avec toute la Bible au complet. Alors, la prédication expositionnelle, c'est une affaire qu'ils ont beaucoup travaillé à instaurer. Les soins pastoraux, il y avait une façon de voir le travail du pasteur qui était vraiment différente des pasteurs de l'Église anglicane. Ce sont aussi des pasteurs qui ont beaucoup insisté sur la sanctification ou la sainteté personnelle. Ils ont aussi contribué à développer la piété pratique dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ça, je dirais que c'est peut-être leur caractéristique la plus forte, cette affaire-là. Tu ne peux pas lire un puritain. Ils vont prendre une doctrine hyper intellectuelle, par exemple, je ne sais pas, mais disons, l'impassibilité de Dieu, qui est difficile à expliquer, difficile à comprendre, mais ils vont trouver le moyen d'amener ça dans ta vie quotidienne de tous les jours, puis de trouver des principes pour les appliquer. Ça, c'est vraiment leur force fondamentale, je dirais, aux puritains. Pas seulement celle-là, mais une de leurs forces. Une autre chose sur laquelle ils insistaient beaucoup, c'était sur la propagation de l'Évangile. Donc, c'était des gens qui évangélisaient continuellement. Et leur ministre était calviniste et souvent, ils les appelaient puritains. Alors, le mot puritain, on sait qu'avec le temps, aujourd'hui, quand les gens utilisent le mot puritain, c'est dans un sens péjoratif, dans un sens pour te moquer, un sens dérisoire. Cependant, l'image véhiculée par les idées et les médias modernes est fausse. Voyez-vous, j'ai trouvé dans l'article qui s'appelle « Puritanisme » sur Wikipédia, l'information suivante par une personne qui a fait une étude sur ce sujet-là. Alors, des historiens comme le docteur Harry Stout de l'Université de Yale s'est intéressé aux puritains américains derrière les mythes forgés pendant la Prohibition par ses opposants. Alors, le puritanisme n'est pas l'antonyme de l'hédonisme. L'hédonisme, c'est tout simplement la recherche constante du plaisir. On vit dans une société aujourd'hui qui est vraiment hédoniste, mais quand on veut faire dire que les puritains ne s'adonnaient pas aucune forme de plaisir, qui était comme rigide, puis qui était comme... C'est faux. Parce que, voyez-vous, l'étude dit que les puritains aimaient les couleurs vives. Leurs vêtements et leurs maisons étaient colorés. C'est le cinéma qui a propagé l'idée qu'ils s'habillaient en noir. Voyez-vous, des fois, on recueille toutes sortes d'idées qui ne sont pas nécessairement vraies. Les puritains non plus n'étaient pas prudes. Le sexe au sein du mariage était encouragé et n'était pas condamné. Les puritains pouvaient même être punis pour chasteté. Les puritains n'étaient pas sobres, on veut dire parfaitement sobre. L'alcool était consommé, les puritains buvaient du vin, de la bière, du cidre, du rhum. L'eau douce était souvent impropre à la consommation, et les puritains aimaient la littérature, la poésie, dont Anne Bradstreet et Edward Taylor, que je ne connais pas, mais peut-être pour les Anglais, ça dit quelque chose. Et les puritains n'étaient pas non plus opposés aux fêtes et aux jeux. Alors, voyez-vous, quand les phénomènes sont étudiés par des scientifiques, par des personnes qui partent pas avec l'idée que c'était comme ça, on voit qu'on apprend des choses sur eux qui sont intéressantes. Alors, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'histoire des puritains et leurs antécédents. Quelles sont les conditions religieuses et politiques qui ont amené leur développement? Alors, un de leurs antécédents, autrement dit, c'est pas commencé dans les années 1600, il y avait eu des influences qui venaient d'une époque avant. Donc, c'est William Tyndale et la suprématie de la Bible. Alors, une caractéristique essentielle des puritains était leur amour des Saintes Écritures. Cet amour tirait son héritage du fait que la Bible avait été traduite par William Tyndale entre 1495 et 1536. En 1524, Tyndale défia la loi en traduisant la Bible dans la langue du peuple et en quittant le pays sans autorisation, ce qui était défendu par la loi à l'époque. Tyndale avait été éduqué à Oxford, où il avait acquis une maîtrise en 1515. Il entra en conflit avec les clergés locaux, qui étaient loyaux au pape et à la tradition. Tyndale préférait accorder sa loyauté à la Bible. Tyndale entra au service de Sir John Walsh en 1521 comme chapelain et précepteur à Little Salisbury. Ses opinions religieuses vinrent à être connues et vers 1522, il fut convoqué par John Bell, chancelier du diocèse de Worcester, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Après cette entrevue houleuse avec Bell et d'autres dignitaires religieux, vers la fin du séjour de Tyndale à Little Salisbury, John Fox rapporte une dispute avec un prélat érudit, mais blasphématoire, qui aurait déclaré à Tyndale « Il vaudrait mieux que nous soyons privés des lois de Dieu que celles du pape. » Tyndale répondit « Je lance un défi au pape et à toutes ses lois. Et si Dieu me préserve, avant longtemps, j'amènerai le garçon de charrue à n'en savoir davantage que toi sur les saintes écritures. » Tyndale fut étranglé et brûlé le 6 septembre 1536. Avant de subir le supplice, il cria d'une voix puissante, « Seigneur, daigne ouvrir les yeux du roi d'Angleterre. » Cette ultime requête sera exaucée 2 ans plus tard. Recueillant sa traduction faite en prison, les amis de Tyndale la complètent et la font imprimer. Il aurait été beaucoup trop dangereux d'indiquer le nom du traducteur sur la page de garde. Aussi, cette édition est-elle désignée comme la Bible de Matthieu, Matthew's Bible en anglais, selon le prénom de l'imprimeur. En 1538, un exemplaire de cette édition est remis au roi Henri VIII. Bouleversé par la beauté du texte et la profondeur de son message, le monarque s'était distingué par ses actes d'indépendance à l'égard du pape, passe outre une nouvelle fois les interdictions ecclésiastiques et décrète que cette Bible doit être lue dans toutes les paroisses d'Angleterre. Plus tard, vers 1560, la Geneva Bible devint la Bible favorite des puritains. Entre 1579 et 1615, au moins 39 éditions furent imprimées en Angleterre. Il y avait dans la Bible de Genève un catéchisme prédestinarien et des notes marginales. Par exemple, les sauterelles d'Apocalypse 9 étaient identifiées comme les évêques, les archevêques et les moines. Alors, bien entendu, le fait que la Bible avait été traduite, le fait que la Bible avait commencé à être diffusée, puis qu'elle avait été approuvée par le roi Henri VIII, ça a été un début de l'installation de l'importance de la Bible dans la vie des Anglais. La deuxième chose qui était très importante pour amener le développement des puritains, c'est le rôle crucial du martyrologiste John Fox. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Fox's... j'essaie de me souvenir du nom, là. Fox's Book of Martyrs. C'est un livre de 1600 pages qui a pris toute sa vie à compiler tous les chrétiens depuis le début, aller jusqu'à son époque, qui avaient été maltraités par l'Église catholique sous une forme ou une autre, avec des illustrations et avec des exemples, et tout raconter l'histoire de ça. Ça existe encore, ça. Et qu'on peut se procurer ça aujourd'hui. Là. Alors, durant le court règne du roi Édouard, entre 1547 et 1553, la position protestante était consolidée en Angleterre. Rappelons qu'à la fin du règne de Marie, qui a eu lieu entre 1553 et 1558, l'Angleterre était réalignée avec Rome. Ce fut durant cette période qu'elle fut surnommée Bloody Mary, parce qu'elle fut responsable de la mort de 270 protestants qui furent brûlés vifs. Parmi ces martyrs étaient des leaders, John Bradford, John Hooper, Hugh Latimer, Nicholas Ridley et Thomas Cranmer, qui était archevêque de Canterbury. Alors, John Fox, qui a vécu entre 1516 et 1587, se convertit durant ses études de maîtrise. Il a dû souffrir toute sa vie une grande pauvreté à cause de ses convictions. Durant la vie de Mary, il quitta l'Angleterre pour Francfort, puis pour Bâle. Il amassa du matériel pour toute l'histoire de l'Église et particulièrement ses martyrs, et publia un livre de plus de 1700 pages, « Book of Martyrs ». Alors, c'était un érudit qui était méticuleux et minutieux. Alors, ce livre était illustré, et bien entendu, ça a contribué à donner un coup mortel au catholicisme en Angleterre. Le livre devint le livre du peuple, qui était présent dans tous les foyers anglais, et qui devenait en quelque sorte un compagnon de la Bible. Alors, le livre de Fox contribua à instiller un idéal du héros chrétien. Alors, Fox a immortalisé les derniers mots de Hugh Latimer, qu'il avait dit à Nicholas Ridley, qui avaient été tous les deux brûlés vifs, alors qu'ils étaient attachés à leur poteau. Le plus vieux disait au plus jeune, « Be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle by God's grace as I trust shall never be put out. » Traduction libre. Soyez réconfortés, Maître Ridley, soyez un homme. Nous allumerons en ce jour une chandelle par la grâce de Dieu qui, comme je le crois, ne s'éteindra jamais. Alors Fox promut l'idée d'une nation élue, l'Angleterre, qui avait été mise à part pour Dieu, par Dieu, afin de préserver et de promouvoir la parole de Dieu. Alors, avec la Bible et le livre de Fox of Martyrs, ça a vraiment été deux facteurs très importants dans le développement du puritanisme en Angleterre. Et bien entendu, tout le mouvement de la Réforme qui avait lieu en Allemagne et en Suisse et aussi en France. Donc, le mouvement luthérien et de Calvin de Genève. Alors, le momentum de la Réforme en Angleterre vint à sa pleine force à cause des écrits et de l'exemple des réformateurs du continent, donc ceux d'Allemagne, de Suisse et de France. Martin Luther et Jean Calvin exercèrent tous deux une influence considérable en Angleterre. Le style de prédication de Jean Calvin, donc qui était un style de prédication systématique de tous les livres de la Bible et expositionnel, et son influence sur la Réforme de Genève impressionnèrent grandement les réfugiés religieux anglais. Voyez-vous, à cause des problèmes qu'il y avait en Angleterre, ces gens-là partaient, s'en allaient sur le continent, puis ils savaient que les gens de la Réforme à Genève, ils les accueilleraient. Alors, il y a eu plusieurs centaines de ces personnes-là qui se sont rendues à Genève. Bien entendu, qui étaient chrétiens. Ils voulaient connaître Jean Calvin. Ils ont vu comment il prêchait. Ils ont vu comment il dirigeait la ville. Et ça, ça les a grandement impressionnés. Quand ils sont retournés en Angleterre, ça a été une des influences qui a fait en sorte que ce mouvement-là s'est développé. Alors, il y avait approximativement une centaine de réfugiés anglais à Genève à l'époque du règne de la terreur de la reine Marie. Alors, Bloody Mary a fait en sorte que les gens qui étaient vraiment des leaders, à un moment donné, étaient obligés de se pousser, sinon, ils se faisaient pendre ou bien non, ils se faisaient brûler vifs. Alors, ils adoptèrent la vision de Calvin sur la nécessité de réformer complètement l'Église ainsi que la forme du culte. Alors, on vient de voir les antécédents, autrement dit, si on ne peut pas comprendre l'histoire des puritains, qu'on ne comprend pas ces trois affaires-là. L'influence des réformateurs du continent, le livre de John Fox et aussi la traduction de la Bible par William Tyndale. Alors, là, ce qu'on va regarder comme deuxième point, c'est l'histoire des puritains, leur développement. Leur développement s'est fait surtout entre 1558 et 1603, donc sur une période de 50 ans. Alors, c'était la reine Élisabeth, quand on regarderait sur notre petit dessin, là. La reine Élisabeth était modérément protestante. Alors, elle a essayé de préserver la chèvre et le chou, et ça n'a pas été un succès, son affaire. Alors, elle chercha à maintenir un équilibre entre le catholicisme et le protestantisme. Elle ne se maria pas et fut moins violente que sa demi-sœur. Alors, Bloody Mary, c'est sa demi-sœur. Cependant, elle fit brûler deux anabaptistes en 1575 et fit pendre trois leaders séparatistes de l'Église anglicane. Voyez-vous, sa façon, elle aurait voulu une religion protestante uniforme dans toute l'Angleterre, les Anglicans. Dès que tu commençais à critiquer l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, ou tu, comme les anabaptistes le faisaient, et des leaders aussi séparatistes, là, ça ne faisait pas son affaire. Alors, elle semblait du côté des protestants, mais c'était les protestants organisés et sous son autorité. Alors, le pape l'a excommunié en 1570. Il faut croire qu'elle ne protégeait pas trop les catholiques parce qu'il a décidé de l'excommunier. Alors, cet acte-là a provoqué l'opposition au pape et a aidé à la cause du protestantisme en Angleterre. En 1588, il y a eu un effort massif qui a été fait par l'Espagne pour envahir l'Angleterre. Alors, c'est une flotte, une énorme flotte de bateaux qui ont voulu envahir l'île. Et, bien entendu, il devait avoir l'influence du catholicisme là-dedans et du pape pour vouloir écraser. Ça a été... L'Église catholique a fait un effort monumental, énorme et constant durant toute la période de la Réforme, pour chercher à mettre la main sur l'Angleterre. Parce qu'ils savaient que l'Angleterre, c'est un peuple qui voyage, et ils savaient qu'ils voulaient absolument que l'Angleterre devienne officiellement catholique. Et il y a toujours eu un mouvement de va-et-vient, et à un moment donné, c'était les protestants qui prenaient le dessus, à un autre moment donné, c'était les catholiques. Alors, ce qu'on a appelé en 1588, ça c'est par la providence de Dieu, que ça ne s'est pas produit, parce que la flotte était suffisamment grosse que si Dieu n'avait pas permis une tempête, à ce moment-là, fort probablement que les catholiques, avec l'armada, on l'appelait l'armada, là, la flotte, une énorme flotte de bateaux qui s'en allait envahir l'Angleterre, à ce moment-là, on aurait pu dire adieu à la réforme en Angleterre. Là. Alors, l'invincible armada est le nom de la flotte d'invasion armée espagnole à destination de l'Angleterre. Elle est affrétée par le très catholique Philippe II d'Espagne et est destinée à emporter des soldats, dont les fameux Tercios, stationnés en Flandre, amener aussi des munitions et des vivres à travers la Manche. Sa mission est le contrôle de l'Angleterre protestante d'Élisabeth Ière, menace permanente pour la souveraineté espagnole sur ses territoires des Pays-Bas. Alors, la mission était initialement projetée pour rétablir Marie Stuart sur le trône d'Angleterre et rétablir sur celui d'Écosse. Cette campagne a été un fiasco. La flotte espagnole, harcelée par les Anglais, ne parvient pas finalement à engager le combat lors de la bataille de Gravesend Gravelines et décide, découragé, d'abandonner tout projet d'invasion. C'est lors du voyage du retour, en contournant l'Angleterre par le nord, qu'une tempête conduit au naufrage sur les côtes irlandaises de 2 douzaines de bateaux. Les équipes parvenues sur les côtes sont poursuivies et probablement pour beaucoup massacrées. Alors, il faut comprendre que, dans le fond, le règne d'Élisabeth a été caractérisé par le compromis. Alors, qui s'intéresse à l'histoire religieuse de l'Angleterre du 16e siècle risque d'être occupé pour longtemps, tant elle est complexe. En résumé, souvenons-nous que le roi Henri VIII provoque un schisme en devenant lui-même chef de l'Église d'Angleterre. Son successeur, Édouard VI, passe au protestantisme. Lors de son court règne, les idées réformées pénétrèrent largement le pays. Mais le règne de Marie Tudor, surnommée Marie la Sanglante ou Bloody Mary, voit le retour du catholicisme et le début des persécutions antiprotestantes. L'avènement d'Élisabeth Ière modifie à nouveau la situation. La reine jette les bases de ce qui deviendra l'anglicanisme. Le compromis élisabétain repose sur 3 textes fondateurs. Dès que quelqu'un étudie l'histoire d'Angleterre, il faut que tu connaisses ces 3 affaires-là parce que c'est essentiel. Alors, ce qu'on a appelé le Supremacy Act, l'acte de suprématie de 1559, qui faisait du souverain le gouverneur suprême de l'Église. Autrement dit, en Angleterre, c'est le roi qui est le boss de l'Église. Alors, c'est une erreur monumentale, bibliquement. Et aussi l'acte d'uniformité de 1559, qui rétablit la liturgie du fameux Book of Common Prayer. C'était un des points sur lesquels les puritains ne voulaient pas avoir un culte qui est pareil partout avec la même prière au même moment. Ils voulaient rétablir un genre de culte à la catholique. Puis les puritains se sont toujours opposés à ça. Et aussi, le 3e document, c'est le fameux 39 of Articles of Faith. Autrement dit, c'est comme l'équivalent de la confession de foi 1689 pour nous, pour l'Église anglicane. Alors, qui est un résumé doctrinal de l'Église d'Angleterre. Alors, durant le règne d'Élisabeth, ces 3 choses-là ont été établies comme loi. Alors, ça a des conséquences, c'est ça. Parce que si tu dis, il faut que les cultes soient pareils dans toutes les églises, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans le Common Book of Prayer, ou dès que tu fais quelque chose, tu sais, que tu ne considères pas le roi d'Angleterre comme étant le chef de l'Église, tu te mets en problème, parce qu'à cette époque-là, on ne jouait pas avec les affaires. Quand tu t'opposais à une autorité, c'était risquer ta tête, autrement dit. Alors, c'était des textes importants pour cette époque-là. Mais certains reprochent à ce compromis de conserver de ce qu'ils appelaient « the rags of Antichrist ». Alors, autrement dit, après avoir fait toutes ces modifications-là, les puritains, ils ont dit, autrement dit, « vous traînez avec vous autres les guenilles de l'Antichrist ». Fait qu'il n'en voulait pas de ça. Fait que c'était pas rien pour ramener la paix en Angleterre. Et il voulait une réforme beaucoup plus achevée, ce que j'autre appelait « a further reformation ». Alors au début, il faut comprendre que quand le mouvement puritain a commencé, c'était surtout un mouvement de nature religieuse qui, par la suite, s'est transformé en un mouvement de nature politique. Bien important, parce qu'au début, c'est religieux, mais à un moment donné, ça devient politique. Au moment d'Oliver Cromwell, c'est devenu politique, et Cromwell était un homme fort, il a réussi à déloger le roi, prendre sa place et régner pendant un certain temps. Alors, sous le règne d'Élisabeth, les puritains ne sont pas encore des séparatistes ni des dissidents, ce qu'ils sont devenus plus tard. Mais sous Élisabeth, ils n'étaient pas encore des séparatistes, mais c'était un mouvement interne à l'intérieur de l'Église d'Angleterre. Alors, ils se font entendre d'abord sur les questions liturgiques, et là, on nomme certaines affaires sur lesquelles ils refusaient. L'agenouillement, le signe de croix, les fêtes des saints, les vêtements sacerdotaux, il devait y avoir d'autres choses. Alors, Thomas Stapledon, un pamphlétaire catholique, applique le premier, le terme de puritain aux protestants, qui refusent les vêtements sacerdotaux vers 1560. Pour l'instant, ces puritains ne critiquent ni le pouvoir royal, ni la hiérarchie ecclésiastique. Mais ils ont le sentiment d'être des godly, autrement dit d'être des saints, des personnes sanctifiées qui reformeront l'Angleterre, l'Église de l'Angleterre. Le puritain est une sorte de calviniste au sein de l'Église d'Angleterre, animé d'une intense religiosité, donc qui faisait vraiment appel à la conversion des individus. En 1572, la première admonestation au Parlement marque l'apparition officielle du mouvement puritain. Mais il faut attendre 1604 avec The Millenary Petition pour avoir la première synthèse des revendications puritaines. Donc, il voulait l'abandon de certaines pratiques dans les rites et dans les tenues. Il voulait avoir des sermons plus longs. Il voulait avoir des évêques sans bénéfices multiples et sans pouvoir d'excommunication. Il voulait aussi le jour, le respect du jour du repos. Alors, les puritains se recrutent non seulement parmi les membres du clergé et les universitaires, mais aussi dans la noblesse rurale qu'on appelait la gentry, la bourgeoisie commerçante et l'artisanat urbain. Le mouvement reste minoritaire et fait l'objet de bien des critiques. On les représente en vêtements noirs avec de grands chapeaux et des cheveux courts, et on leur reproche une certaine hypocrisie. Au fil du temps, l'opposition des puritains grandit. Certains se radicalisent et demandent la fin de l'épiscopat. Donc, c'est en train de demander l'abolition du poste des évêques. Et là, ça a commencé à chauffer sérieusement. Les puritains restent fidèles à la définition calviniste de la prédestination, tandis que l'Église d'Angleterre adopte l'arminianisme, une version atténuée de la prédestination calviniste. À la critique religieuse de plus en plus vive, il faut bientôt ajouter l'opposition politique. Alors, à partir de ce moment-là, l'opposition est devenue plus politique. En 1566, un puritain écrit « Si le prince ordonne de faire ce que Dieu n'a point ordonné, nous devons refuser de lui obéir et subir patiemment les rigueurs de la loi, car la vraie désobéissance est due d'abord à Dieu, la vraie obéissance, c'est-à-dire est due d'abord à Dieu, et ensuite seulement au prince. » On voit ici que l'opposition religieuse prépare l'opposition politique. Le roi étant chef de l'Église d'Angleterre, les questions religieuses deviennent, en effet, facilement politiques. Sous le règne d'Élisabeth, dès 1588, apparaissent les premières persécutions. En 1593, John Penry, l'auteur du Marple Late Tracts, donc c'était un pamphlet contre les évêques, est arrêté et pendu pour crime de rébellion. Le roi Jacques Ier, bien qu'écossais d'origine, rappelle son attachement à l'anglicanisme. À la conférence de Hampton Court, face aux puritains qui critiquent l'organisation épiscopale, il s'exclame « Pas d'évêque, pas de roi, pas de noblesse ». Le puritanisme devient donc une opposition politique qui prendra sa forme antimonarchique la plus avancée avec Cromwell. Et bien entendu, il faut parler aussi qu'est-ce qui a fait que ça a tant progressé. Ça a été le rôle de grands pasteurs et leaders qui se sont passés surtout dans les 10 années entre 1580 et 1590. Alors, le début du mouvement du puritanisme doit en partie son développement à quelques grands pasteurs et prédicateurs. Parmi ces hommes doués, nous trouvons Richard Greenham, Richard Rogers, Lawrence Chatterton, Arthur Hildersham, John Dodd, John Rogers et William Perkins. Les puritains se multiplièrent en utilisant les œuvres de ces grands leaders qui devinrent fameux comme médecins de l'âme. Alors, l'auteur en prend 4 et il montre l'interaction. Ils appelaient les « the Communion Four », je pense, juste comme ça. C'est des gens qui travaillaient dans l'université de Cambridge, qui étaient des hommes de grand calibre, non seulement intellectuellement, mais c'était des hommes hautement sanctifiés. Donc, ils ont eu une grande importance pour diffuser les idées de ces quatre hommes-là. Donc, comme Perkins, j'ai commencé à acheter ses livres, ils ont refait aujourd'hui en... C'est comme le gros dictionnaire qu'il y a là, le Collins, 10 volumes de même. J'ai reçu le deuxième. Le deuxième est sur un commentaire sur Galates, de cette grosseur-là. Et c'était des hommes, et puis j'ai commencé à lire ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, ça a été écrit dans un anglais moderne, donc à quelque part, c'est très facile à suivre. Et ils veulent tout republier l'œuvre de William Perkins en 10 volumes. Là, ils en publient un ou trois mois, puis dans à peu près 2-3 ans, on devrait avoir la... Moi, je me propose de lire une œuvre complète, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit, si vous ne lisez qu'un puritain, lisez William Perkins. Et c'est pas n'importe qui a dit ça. C'est Joel Beakey, qui est une des plus grandes autorités sur les puritains aux États-Unis. Alors, on a une idée que ces bonhommes-là étaient des hommes d'une envergure et d'une sanctification peu ordinaire. Alors, c'est ce qui a contribué beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup écrit. Alors, ça circulait. Et à son époque, il était le pasteur des pasteurs, on pourrait dire. Un peu le rôle équivalent de ce que John Gill a joué au 19e siècle, quand il était le pasteur des pasteurs de Londres. Lui était le pasteur des pasteurs à cette époque-là. Bien, c'était aussi à Londres. Je pense Cambridge, je ne me trompe pas. Non, Cambridge, je pense que c'est une ville d'Angleterre, mais je ne pense pas que c'était à Londres. En tout cas, mes connaissances sur l'Angleterre sont... Alors, le premier homme... C'est Richard Greenham. Alors, ces hommes-là se connaissaient les uns les autres et s'influençaient mutuellement. Alors, il a quitté l'atmosphère académique de l'Université de Cambridge, où il avait été tuteur, pour accepter une charge de pasteur dans l'humble village de Dry Drayton, à approximativement 5000 ou 8 kilomètres de Cambridge. Il travailla sans relâche dans ce village pendant 20 ans. Greenham était un pasteur par excellence. Un médecin de l'âme, capable de discerner les expériences profondes de l'âme. Un expert en counseling et en réconfort des personnes. Il se levait tous les jours à 4 heures du matin pour utiliser son temps au maximum pour sa propre vie spirituelle et celle des âmes que le Seigneur lui avait confiées. Il refusa souvent des offres de promotion lucrative et était reconnu pour sa très grande générosité envers les pauvres. Plusieurs jeunes hommes vinrent s'installer dans son village pour recevoir de lui de l'instruction dans les Saintes Écritures. Il fut grandement critiqué pour son non-conformisme dans la manière qu'il conduisait les cultes d'adoration. Il prêchait Christ crucifié et plaidait pour la tolérance que devait avoir un ministre de l'Évangile. Des personnes très influentes devinrent ses amis. Il fut très souvent protégé de la jalousie et de la méchanceté de ceux qui s'opposaient à son ministère. Bien sûr, on ne peut pas avoir une idée complète, mais ça nous donne une idée du genre de gars. La deuxième, c'est Richard Rogers. Alors, lui a vécu entre 1550 et 1620. Alors, en 1574, Richard Rogers devint un prédicateur de la parole de Dieu dans le village de Wethersfield. Il travailla diligemment à la conversion des âmes dans ce village, mais travaillant aussi grandement à la mortification des péchés de sa propre âme. Comme Greenham, il ouvrit une école de théologie dans sa maison pour les jeunes hommes intéressés à la théologie chrétienne. Ayant beaucoup pratiqué la mortification sur sa propre âme, il écrivit en détail sur la vie chrétienne pratique et quotidienne. Cette œuvre était « The Seven Treatises » qui fut rééditée 7 fois. Avant 1630. Son ami intime et voisin, Ezekiel Culverwell, exprima le souhait que ses lecteurs aient pu voir comment l'auteur mettait ses enseignements pratiques de leurs propres yeux et qu'ils aient pu entendre sa doctrine de leurs propres oreilles. Rogers gardait un journal dans lequel nous pouvons voir comment un saint pouvait marcher le plus près de Dieu possible. Une des séries de ses expositions gagna de la popularité, soit les sermons sur le livre des juges. Nous ne devons pas imaginer que Rogers mena une vie facile, entourée de serviteurs, pour se livrer à une vie d'exercice spirituel, comme l'étude, la méditation ou l'écriture. Il devait s'occuper d'une famille nombreuse, d'une ferme, d'une église locale et d'une école de théologie. Alors, ça donne une idée pourquoi que ça levait de bonheur, comme on disait. Et le troisième, c'est William Perkins, qui a vécu de 1558 à 1602. Quand vous regardez son âge, il est mort jeune, 44 ans. À cette époque-là, 44 ans, c'était... Je crois bien qu'à cette époque-là, souvent, les 50 ans, les gens ne dépassaient pas beaucoup 50 ans, à part des exceptions. Alors, William Perkins travailla à Cambridge et eut une influence très importante sur toute une génération de pasteurs de son époque. Il excellait autant dans la prédication qu'avec la plume. Il fut le premier à écrire sur l'homélitique, donc l'art de prêcher, et je l'ai à la maison, ce livre-là, « The Art of Prophesying », l'art de... Dans ce temps-là, prêcher, il appelait ça « prophesying ». Ça m'a dit « tu prêches au nom de Dieu », il appelait ça « prophesying ». Plus que tout autre pasteur de son époque, il exerça une influence d'une grande profondeur sur les pasteurs de plus d'au moins deux générations. Ses livres étaient sur toutes les tablettes des pasteurs et étudiants en théologie. Le pasteur et érudit sur les puritains, Joel Bickey, a déjà écrit sur l'importance et la qualité de ses écrits en disant « Si vous ne devez lire qu'un puritain, lisez William Perkins ». Une des caractéristiques des sermons de William Perkins était son côté très pratique. Toute doctrine devait trouver des applications pratiques de la vie de tous les jours. Dans la préparation de ses sermons, il s'efforçait de s'adresser aux besoins de toutes les classes de ses auditeurs. Jeunes, nouveaux chrétiens, chrétiens mûrs, hommes et femmes, instruits et hommes simples. Ça, ça a l'air facile, là. Mais on parle d'une petite congrégation ici, si on n'est pas gros, là. Mais prends une congrégation de plusieurs centaines de personnes où tu as des hommes, des femmes, des enfants, des gens instruits puis des gens pas instruits. Essayer de prendre un texte puis de le rendre intéressant pour tout le monde, c'est un gros travail. Et lui, il excellait là-dedans. Il faisait un effort pour que dans chacun de ses sermons, son message s'adresse aux besoins des âmes de tout le monde. C'est particulier, c'est très particulier. Alors, ses nombreux écrits surpassaient de beaucoup ceux de ses contemporains en qualité et en quantité. Il allait souvent dans les prisons pour chercher à gagner des âmes à Christ. Il a souvent assisté des condamnés à mort à affronter la mort. Plusieurs se convertirent. Il prêcha aussi très souvent à de grandes foules. On disait de ses sermons qu'ils étaient à la fois toute loi et tout évangile. En anglais, c'est « all law and all gospel » en même temps. Alors, dans chacun de ses sermons, il y avait la loi pour accuser sur le péché, puis il y avait l'évangile pour montrer qu'il y a une solution à ça. Alors, ils étaient tout loi, en ce sens qu'ils exposaient la gravité et la honte du péché, et tout évangile en offrant un pardon gratuit et plein aux pécheurs perdus. Il était particulièrement habile à éveiller les âmes sur la réalité de l'éternelle condamnation. On dit que Perkins avait un don d'éloquence, que sa manière de prononcer le mot « damné » faisait trembler les pécheurs. Il mourut très jeune, à 44 ans, fut très regretté durant toute sa génération. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il faudrait que je la prenne, que je la fasse imprimer, puis qu'on la mette sur un tableau. Comme explication du salut, là, sur une charte, avec toutes des petits ronds, il explique comment tout ça se développe, la vie du chrétien, la salut, partant du Père, aller jusque dans la sanctification, dans les moindres détails. C'est absolument brillant. J'ai jamais vu rien d'aussi brillant de toute ma vie. Quand tu regardes ça, t'es étourdi de voir comment une personne a pu tout prendre les doctrines, mettre de l'ordre là-dedans et montrer les liens qu'il y a entre... Si tu fais juste dire que t'es professeur, il te montre la lignée, comment ça va finir, et c'est vraiment brillant. Ça vaudrait la peine que je fasse faire un gros poster, qu'on lamine ça, qu'on mette ça. Il est reconnu, sa charte s'appelle, je pense, Ordo Salutis. C'est vraiment extraordinaire. Il faudrait que je prenne ça et que je traduise ça en français. Ça ne serait pas une grosse traduction, mais je pense que je rendrais service à bien du monde, parce que c'est vraiment très bien fait, cette charte-là. Et le dernier, c'est Lawrence Chatterton, qui a vécu entre 1537 et 1635. Lui, c'est assez spécial. Tout à l'heure, on parlait qu'à l'époque, on vivait à peu près 50 ans. Lui, il a vécu jusqu'à 98 ans. Alors, Chatterton, il a vécu presque jusqu'à 100 ans. et il a publié quand même peu. Mais il était originaire d'une famille riche, catholique, dans laquelle il avait été, selon ses propres paroles, muselé dans les superstitions papales. Il fut déshérité lorsqu'il se convertit à l'Évangile et au puritanisme. Un bienfaiteur de son époque, Sir Walter Mildmay, qui avait fondé Emmanuel College à Cambridge, avait choisi Chatterton pour présider ce collège. Il occupa ce poste pendant plus de 40 ans. Il fut ce qu'on appelle un lecturer. J'ai fait un peu de recherche pour savoir ce que ça veut dire, un lecturer, à l'époque. Semble-t-il que les gens des villes, les nobles et les gens qui s'occupaient de marché prenaient des puritains ou des hommes qui savaient prêcher, mais ils appelaient pas ça des prédications parce qu'il fallait que ça se fasse dans les églises à l'époque. Alors, si tu fais prêcher un homme en public, au lieu d'appeler ça des sermons, il appelait ça des lecturers. Alors, lui, il était lecturer, et à l'époque, c'est devenu une mode que ceux qui voulaient entendre la parole de Dieu, qui ne voulaient pas être accusés de faire ça en dehors de l'Église, ils faisaient ça dans les marchés publics. Alors, il occupait ce poste-là à l'Église St. Clemens de Cambridge pendant plus de 50 ans. Lorsqu'il voulut quitter son poste à cette Église, plus d'une quarantaine de pasteurs le supplièrent de rester. Plusieurs lui attribuaient leur conversion personnelle. On raconte qu'à une occasion où il fut particulièrement long dans la délivrance d'un sermon et qu'il s'excusait pour avoir abusé de la patience de ses auditeurs, la congrégation entière s'exclama en chœur « Pour l'amour de Dieu, monsieur, veuillez continuer. Continuez. » La croissance du puritanisme fut en grande partie due à ce genre de vie pieuse qui captivait l'imagination d'un grand nombre. L'Université de Cambridge, à travers les hommes comme Perkins et Chatterton, eut un rôle formidable dans l'avancement de ce mouvement. Le système des lectureships, on vient d'en parler, a aussi grandement contribué à la progression du puritanisme. Les magistrats et les nobles organisaient des conférences et prédications dans leur marché public comme un système pour passer au-dessus de l'obligation et le devoir de conformité au Common Book of Prayer, donc qui était une obligation d'avoir un culte uniforme et partout le même, de par la loi et l'anglicanisme. Alors, entre 1560 et 1662, donc sur une période d'une centaine d'années, plus de 700 pasteurs devinrent des « lecturers » dans la ville de Londres. Le patronage des riches et des nobles furent donc déterminants. Autrement dit, l'Église d'Angleterre devait être con, mais comme ils réussissaient à se faire des amis avec les riches et les puissants, il y avait comme un genre d'équilibre qui s'établissait. Alors, c'est le Seigneur qui permet ça, là, s'il n'y aurait pas eu ça. Là. Alors, durant le règne d'Élisabeth, la place de la prédication, que ce qu'il appelait « prophesying », devint très populaire. Des meetings où se pratiquaient des sermons expositionnels et des discussions se multiplièrent. Élisabeth se sentit menacée et chercha à supprimer ce genre d'expression de la foi. L'archevêque Edmund Grindal, à qui la reine avait donné le mandat de stopper ses pratiques, refusa d'exécuter sa volonté. Il fut suspendu de son office pour les 7 dernières années de sa vie et confiné à sa maison. En mai 1577, la reine elle-même envoya des lettres aux évêques leur ordonnant de supprimer les meetings de prédication, donc les prophesying meetings. Alors on voit d'où c'est parti, comment ça s'est développé, quelles sont les principales influences qui ont amené le développement du mouvement. J'ai vu plusieurs applications, je vois plusieurs applications qu'on peut faire juste avoir écouté. Alors, la première application, les puritains étaient très attachés au Saintes Écritures pour définir leurs croyances, leurs pratiques et leurs cultes. Comme eux, attachons-nous à la Bible pour toutes choses. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Deuxième application, apprenons des leçons de l'histoire. Première leçon, Dieu protège son Église. On a juste à regarder l'histoire de l'armada espagnole et de sa tentative d'envahir l'Angleterre par une grosse flotte de bateaux et d'armement et d'hommes, de militaires. Deuxième leçon de l'histoire, que ce n'est jamais une bonne idée de donner à l'État de légiférer sur les choses spirituelles. L'acte de suprématie de 1559, qui faisait du souverain le gouverneur suprême de l'Église, l'acte d'uniformité de 1559, qui rétablit la liturgie du Common Book of Prayer, et chercher à légiférer sur la manière d'adorer. C'est bizarre parce que quand les puritains sont arrivés en Amérique, ils auraient dû avoir appris de ce qui s'était passé en Angleterre. Puis quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont cherché, eux aussi, à mettre le gouvernement sur leur bord et à instaurer des religions d'État. C'est bizarre, des fois, comment les hommes apprennent peu de leurs erreurs. La troisième, c'est que la violence n'est jamais une solution à quelque problème que ce soit. Troisième application, retenons que les actes courageux de grands chrétiens et des petits aussi, ont des conséquences sur le très long terme et parfois sur plusieurs générations et même plusieurs siècles. Prenons l'exemple de William Tyndale et la traduction de la Bible en anglais. Si ça n'avait pas été de lui, où est-ce qu'on serait rendu aujourd'hui, j'en sais rien. Un autre exemple, celui de John Fox et son livre « Book of Martyrs » qui influença la destinée spirituelle de tout un pays et qui continue, même aujourd'hui, d'avoir un impact sur nous. Quatrième application, méditons et prenons des résolutions pour imiter les vies des grands leaders du passé. Leur amour des âmes, leur renoncement, leur mortification du péché, leur attachement aux Saintes Écritures, leur volonté de former les jeunes, l'évangélisation incessante, le dévouement auprès des prisonniers et des pauvres, les applications des principes bibliques à tous les aspects de la vie quotidienne, leur fidélité, leur esprit de sacrifice, etc. Cinquième application, Satan et ses serviteurs ont toujours été opposés à l'avancement de la lumière divine et ont utilisé abondamment les tactiques et les pratiques les plus ignobles et les plus violentes pour freiner l'Évangile. Rappelons-nous que nous sommes en guerre spirituelle. Éphésiens 6, versets 11 à 18. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que notre merveilleux Seigneur nous donne de comprendre et de mettre en pratique toutes ces choses, par sa grâce et pour sa gloire.
Amen.
Amen.